Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Réveil culturel. Le Réveil culturel, c'est tous les jours de la semaine des potrombinés à la radio ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en différé, en ligne donc, ou par abonnement au podcast de l'émission disponible sur l'application de Radio France par exemple, ou encore en quelques clics à partir de la page franceculture.fr. Alors justement, est-ce que le numérique va bientôt nous rendre dépendants de la machine? Autrement dit, faut-il se méfier de la tyrannie des algorithmes, pour reprendre le titre de l'essai publié par Textuel, dans lequel mon invité du jour, le philosophe et psychanalyste Miguel Benassayag, livre ses réflexions à l'anthropologue Régis Méran. Les humains ont-ils intérêt à déléguer de plus en plus de leurs fonctions aux programmes informatiques? Alors bien sûr, sans refaire le match d'ailleurs dépassé entre technophiles et technophobes, est-ce que c'est pas le bon jour pour se poser la question de savoir si bientôt les machines vont dominer nos vies jusqu'à nous déshumaniser? Le Réveil culturel est une émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la technique Olivier Dupré.
Le Réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Miguel Benassayag.
Bonjour.
Alors on va parler justement de la tyrannie des algorithmes, très beau titre donc de cet essai en forme d'interview édité par Textuel. Mais d'abord, rappelez que vous avez beaucoup travaillé sur le rapport entre la machine et l'homme. Vous avez publié plusieurs livres. Rappelez que vous êtes philosophe, psychanalyste, mais aussi un homme de combat, de cause. Vous êtes un ancien résistant guévariste, vous êtes d'origine argentine. Tout d'abord, quand vous dites la tyrannie des algorithmes, juste pour entamer la discussion, j'ai envie de vous contredire en disant que les algorithmes, ce sont quand même des programmes écrits par des hommes avec leur sensibilité d'humain et qui peuvent être toujours contrôlés par les hommes. L'intelligence artificielle, ce n'est que ça, ce ne sont que des algorithmes.
La tyrannie des algorithmes, c'est juste un titre, non ? C'est-à-dire les algorithmes, ce sont des combinatoires mathématiques qui ne tyrannisent, n'aiment, ne détestent rien. C'est-à-dire, ce sont des processus sans aucun sujet. Justement, c'est une des caractéristiques principales. Ce sont des processus sans sujet.
Mais des produits de l'homme, hein.
Alors, la question, c'est que, moi, j'ai beaucoup travaillé dans les rapports cerveau, machine, digital, etc. C'est pour ça que, on arrive à ce petit bouquin, parce que, au fait, ce dont on se rend compte, c'est dont vous parliez justement à la présentation de l'émission, il existe des mécanismes qu'on appelle en neurologie de délégation des activités, délégation des fonctions, n'est-ce pas, cérébrales et corporelles aussi, mais bon, là, restons au cerveau, vers la machine. Cette délégation des fonctions n'est pas un pur profit, c'est-à-dire on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, etc.
C'est-à-dire que pour aller très vite, ça ne va pas nous libérer, ça ne va pas nous soulager, bien au contraire.
Si, ça peut soulager, si ça peut soulager, le problème c'est que cette délégation, depuis une vingtaine d'années, est une délégation à sens unique, c'est-à-dire que nous déléguons de plus en plus nos fonctions, différentes fonctions, hein, c'est-à-dire ça peut être un truc très complexe, ça peut être diriger l'économie mondiale, comme ça peut être diriger votre journée, ou vous divertir, je ne sais rien. Mm-hmm. On délègue de plus en plus. Cette délégation, ce qui est ignoré, et pour cause, par le grand public, c'est que ce que le cerveau n'a plus à faire, ben, ne le fait plus. Ne les fait plus. Alors, par exemple, pour une recherche antérieure, on avait travaillé sur les GPS, par exemple. Voilà un exemple concret d'algorithme. Alors, donc, c'était deux équipes de chauffeurs de taxi novices, non, qui commençaient à travailler à Londres et à Paris, deux villes labyrinthiques, non. C'est pour ça que ceux de Londres commençaient à conduire sans GPS, et ceux de Paris avec GPS. Au bout de 3 ans, tous les membres de l'équipe d'expérimentation de Paris avaient les noyaux sous-corticaux qui cartographient le temps et l'espace, que vous dites où vous êtes, qui est,
absolument,
atrophiés, avec des atrophies différentes, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que quand on délègue cette fonction, n'est-ce pas, la fonction de s'orienter, la fonction de dire où j'y vais, droite, gauche, on perd les notions spatio-temporelles petit à petit, et ces noyaux-là, que jusque-là, avaient comme fonction, cette fonction qui est vitale et très importante, eh ben, ils s'atrophient. Alors, il peut se passer dans la longue durée, dans la très longue durée, il se passe dans l'évolution des espèces que on délègue des fonctions, par exemple, une autre espèce, et on recycle cette zone-là pour autre fonction. Mais pas avec cette vitesse-là. Vous voyez? C'est-à-dire pas à cette vitesse-là. Si je délègue les fonctions, délègue les fonctions vers les GPS, pour parler à cet exemple-là, mais il y en a de tant d'autres. Si je délègue cette fonction-là avec une trop grande vitesse, il n'y a absolument pas la possibilité de recycler ces zones-là. Alors, qu'est-ce qui se passe, ces noyaux-là? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a des phénomènes d'atrophie. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai fait une tonne de recherches en montrant, comme vous l'avez très bien dit, au-delà des technophiles ou technophobes qui sont un peu des bêtises. Hein,
ouais, c'est dépassé maintenant. C'est absolument... La machine est là, vous le dites voilà. D'emblée, la machine est là, il faut faire avec. Hein.
C'est la réalité. Alors donc, quand, à partir d'un tas de recherches en montrant cette délégation des fonctions qui font qu'effectivement, ça affaiblit beaucoup la capacité de décision, de réflexion, c'est un tout petit peu ce que Jean-Michel Vesnier, il appelle l'homme diminué, n'est-ce pas, quelque part. Bon.
Alors quand vous avez proposé exactement le contraire, hein, c'est-à-dire l'homme augmenté par les progrès technologiques.
Absolument, cette augmentation est avec cet mécanisme-là. Je diminue mes fonctions et je la mets sur la machine. Alors, ce que je voulais vous commenter, c'est que quand j'ai sorti toutes ces recherches-là, je m'attendais à que les chers collègues, vous savez comme on dit pour ne pas s'insulter, non, les chers collègues allaient dire « Oh non, non, mais c'est pas une recherche très stricte, c'est pas bien fait, c'est pas bien tabulé. » Bon, 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 pas du tout. La réaction était pire. Ils m'ont dit « Oui, et alors ?» C'est-à-dire que dans le milieu de la recherche technoscientifique, et dans pas mal d'autres milieux aussi, on considère que bon, mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Et que voilà, maintenant on délègue, et que le cerveau va devenir un segment dans la grande machine, patatim patata. Bon, vous savez, c'est-à-dire quand on apprend un enfant à faire une racine carrée, un algorithme, un truc un tout petit peu compliqué, on peut voir grâce à l'imagerie médicale comment le cerveau se complexifie, l'architecture cérébrale se complexifie. Si le môme appuie un bouton, il ne se complexifie pas. Alors après, il dit, et à quoi ça te sert de savoir faire une racine carrée quand tu as plus de 30 ans? À rien, effectivement. Sauf que ces mêmes réseaux sont ceux qui servent à la pensée complexe, à la pensée contradictoire, à la capacité de supporter la temporalité nécessaire pour réfléchir.
Et on ne peut pas compenser, pardon Miguel Benassayag, de porter la contradiction, mais par exemple, un aspirateur, un robot qui ferait le ménage à la maison, forcément, aura peut-être des conséquences sur notre physique, parce qu'on fera pas d'efforts, mais on pourrait utiliser ce temps pour aller dans une salle de sport.
Mais absolument.
Donc on peut trouver toujours des arrangements.
Mais absolument, mais c'est ce qui se passe pas. C'est-à-dire, moi j'habite en sixième étage, et heureusement un ascenseur, un peu merdique tout petit, mais il a le mérite d'exister. Bah, depuis que j'ai l'ascenseur, je suis pas devenu un flan sans muscle. J'ai fait de la gym. C'est exactement ce qu'on fait pas avec le cerveau et les algorithmes. Et l'autre, il y a quelques jours, à Buenos Aires, je donne des cours à la fac. Alors, un jeune ingénieur très brillant, en plus, il m'a dit, bon, mais écoute, quand même, Miguel, moi, je m'en sers, j'ai gagné mes 2 heures avec des calculs que je n'ai pas à faire. Je lui ai dit, mais t'as tout à fait raison, mais toi, tu es l'exemple parfait des hybridations. C'est-à-dire que tu utilises, comme l'aspirateur, comme moi, l'ascenseur, c'est-à-dire, tu utilises la machine pour ton projet. Le problème, c'est que aujourd'hui, les algorithmes à l'école, à la primaire, à la maternelle, s'adressent à un cerveau pas formé du tout. On n'est pas dans les cas du gars de Buenos Aires qui est un ingénieur, qui pense, qui patatine, patatane, et qui utilise la machine, n'est-ce pas? On est dans la pédagogie des compétences, dans les ordinateurs à l'école, etc. On est dans une sorte de vision modulaire de l'être humain qui est un peu casse-gueule. Est un peu casse-gueule et il manque de réflexion. Moi, je ne pense pas, effectivement, comme dans les cas de l'ingénieur. Ce qui est souhaitable, c'est comme le mec qui a l'aspirateur ou l'ascenseur, il va à la salle de gym, il hybride. C'est-à-dire
c'est ce que vous dites dans ce passionnant petit livre édité chez Textuel, La tyrannie des algorithmes, et c'est un échange avec Régis Mérand. Vous dites que vous êtes pour l'hybridation humain-machine. Ne surtout pas laisser la machine s'occuper de tout, de toute l'organisation de la vie des humains, mais voilà, faire ce partage avec la machine des tâches à faire.
Oui, absolument. La question, c'est savoir. Alors, on est dans une situation très paradoxale, non ? Parce que comme les machines, ils font tellement, tellement, tellement de choses. Moi, je les vois chez les collègues chercheurs même. Hein. Tout à coup, on doit se dire, oui, mais au fait, c'était quoi qui était la singularité du vivant, de l'humain ? Vous comprenez ? C'est-à-dire, c'est comme si tout à coup, il n'y a pas que l'aspirateur. Il y a tout à coup un robot qui fait tout, 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 tout. Même l'amour avec votre femme, comme propose maintenant, vous voyez, toutes ces machines à faire l'amour, etc. N'est-ce pas ? Bon. Alors, vous avez une machine, vous voyez, qui s'occupe de tout, ok, très bien. Et alors, tout à coup, on s'est dit, ah bah merde, et moi, à quoi je sers ? Ben, c'est exactement la question centrale qu'aujourd'hui on doit se poser. C'est-à-dire, quelle est la singularité du vivant et du cerveau humain.
Est-ce que pour vous, Miguel Benassayek, c'est un nouveau débat ramené par le numérique, ou c'est toujours le même débat ? Qu'est-ce qu'on fait avec nos inventions ? Parce que ce que vous posez là comme problème, on l'a sans doute posé à l'époque du nucléaire, hein, et on sait qu'avec le nucléaire, on fait le meilleur et le pire.
Si on l'a posé même très longtemps avant, avec les, l'imprimerie par exemple, n'est-ce pas ? C'est-à-dire on disait que l'effet d'avoir des bouquins, ça allait rendre ignorants les gens. Pourquoi on disait ça ? Parce que l'Église, non, disait il ne faut pas laisser que les gens lisent n'importe quoi et qu'interprètent. La lecture en voix basse était vue comme subversif, parce qu'on disait, bah là, les mecs et la nana, ils vont tirer les conclusions qu'ils veulent, en tant que, sinon les curetons, de surcroît en parlant en latin, c'était lui qui donnait l'interprétation.
Alors, donc vous confirmez que c'est un vieux débat.
C'est un vieux débat, très vieux débat. La particularité actuelle, c'est que l'imprimerie a 5 siècles. N'est-ce pas ? Il y a eu un temps de régulation,
d'adaptation, c'est ça ?
D'adaptation, d'adaptation.
Alors que pour vous, le numérique, ça va trop trop vite.
Et pour moi, sincèrement, ça en déplaise à certains technophobes total. Pour moi, non, le problème principal, c'est ça. C'est la vitesse de colonisation de notre vie.
C'est ce que vous dites la colonisation de nos corps et de nos esprits par le numérique, par la machine.
Ouais. Et oui, vous voyez, par exemple, d'un point de vue politique, mettons, n'est-ce pas ? On sait bien que les élus, ils représentent non pas le peuple, mais la macroéconomie, n'est-ce pas ? Ils représentent la macroéconomie face au peuple, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, mais la macroéconomie, c'est quoi ? Mais avec les big data, avec les grandes banques de données, mais vous imaginez les grandes décisions, les grandes orientations sont données par personne, sont données par des machines qui, en microsecondes, tiennent en compte des milliards de données. Et après, il n'y a pas Juan Pérez qui va dire « Oui, mais moi, je ne suis pas d'accord. » Vous voyez ? C'est-à-dire que les grandes orientations en médecine, par exemple, en médecine concrètement, les diagnostics par Big Data, bah, c'est-à-dire, moi, je suis très content si je peux avoir une Big Data pour un cas orphelin, comme on dit, que je n'ai piche que dalle. OK. Mais le problème, c'est que ce n'est pas ça. Les diagnostics par Big Data, c'est j'ai une grille préétablie que j'applique au mec ou à la nana qui vient. Il doit répondre non pas d'après sa subjectivité, mais d'après ce qui rentre dans la grille. Et il arrive un diagnostic qu'on appelle individualisé. Bon, la vérité, c'est que là, il y a une double absence du malade et du médecin. Alors, quelle était la médecine jusqu'à aujourd'hui ? La clinique en général, c'était en Paris. En Paris, c'est-à-dire, on tient compte du savoir, mais le savoir est nécessaire, mais pas suffisant, comme on dit. Et il y a cette réalité du vivant, de l'humain, dans laquelle je tiens compte de tout ce savoir-là, je tiens compte de tout ce que Big Data veut me dire, mais je fais un pari. Le diagnostic est un pari partagé avec les malades. Alors, tout ça, c'est très beau. Sauf que si vous vous gourrez et les patients clampent avec votre pari, vous êtes mal. Si le patient clampe avec Big Data, c'est la faute à personne. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une déresponsabilisation de plus en plus grande de la population, pas que du médecin ou des politiciens. Il y a une déresponsabilisation, même au quotidien. C'est-à-dire, cette délégation des fonctions provoque une absence. On se rend absent à notre vie, de plus en plus. Et plutôt que fonctionner, J'ai dit, il faudrait quand même voir à quoi s'agit, de quoi il s'agit d'exister, n'est-ce pas? C'est-à-dire.
À quoi, oui. C'est quoi le sens profond, pour ne pas dire philosophique, de notre existence sur Terre? Et c'est très, très bien expliqué dans ce petit livre, La tyrannie des algorithmes. Vous restez avec nous, Miguel Benassayag.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Avec le philosophe et psychanalyste Miguel Benassayag, autour du dernier livre paru en forme d'entretien autour de la tyrannie des algorithmes. Ce que vous dites en plus dans ce livre, c'est que notre modèle d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire ce modèle de démocratie occidentale est menacé aussi par les algorithmes, que tout système politique est menacé par quelque chose qui pourrait ressembler à une technocratie.
Si, il existe une fascination, et c'est compréhensible, par le monde des algorithmes, mais le problème c'est que les algorithmes signifient très concrètement en traduction calculabilité. Hein, c'est comme ça, c'est calculabilité. Les algorithmes, ils peuvent apprendre de leurs erreurs, mais pour calculer toujours positivement. Or, il s'avère que la vie humaine n'est pas gérée par la rationalité calculante. Il existe l'irrationnel, l'affectif, la subjectivité, les caprices, n'est-ce pas, les désirs, quoi. Alors donc, le problème, c'est que dans notre société, de plus en plus gérée par des algorithmes, il y a cette sorte de phrase stupide qui dit c'est panoptique, c'est transparent, mais si j'ai rien à cacher. Mais c'est con ça, parce que il s'agit pas d'avoir quelque chose à cacher.
Vous parlez des données?
Oui, on dit les données sont accessibles. Effectivement, sont accessibles et seront de plus en plus accessibles. Alors on dit, mais si j'ai rien à cacher, n'est-ce pas? Eh bien, c'est là où petit à petit on se dit, je vais fonctionner, je fonctionne bien, donc tout va bien. Mais le problème, c'est que la vie humaine ne peut pas se réduire au fonctionnement.
Voilà, vous dites, les machines fonctionnent, mais les êtres humains vivent.
Exactement. Et vivre, ça signifie, il ne faut pas avoir là derrière un truc très romantique, qu'on fait des tableaux magnifiques, qu'on crée des poèmes. Non, l'être humain merde. C'est comme ça, c'est normal. C'est-à-dire, nous, on ne peut pas fonctionner bien comme une machine. Une machine fonctionne mal, on la corrige. Un être humain fonctionne mal, c'est normal. C'est normal. C'est-à-dire, c'est normal parce que les humains, nous ne pouvons pas, pour aller vite fait, ne pas merder. C'est-à-dire, on ne peut pas aller en ligne droite parce que c'est la plus courte, comme vous voulez, le Corbusier, n'est-ce pas? On ne peut pas toujours être raisonnable. On ne peut pas. Alors, pourquoi on ne peut pas? on n'a pas 3 ans d'émission, n'est-ce pas? Et même là, on ne pourrait pas le dire. Mais ce que le monde algorithmique ignore et écrase, c'est toute cette singularité du vivant qui incorpore la négativité, non pas comme une faille, comme une défaillance, mais peut-être comme une faille existentielle, quelque chose. Il faut faire avec, quoi. Moi, j'ai 40 années de clinique psychiatrique et psychanalytique. Je vous assure que penser un monde géré par une raison calculante, c'est la pire folie. Je n'ai jamais trouvé plus fou que ça, alors.
Miguel Benassayag, avant de revenir à ce point très très précis, parce que vous dites que nous sommes déjà en post-démocratie, est-ce que vous craignez, est-ce que vous pensez qu'un jour les machines vont prendre le dessus sur nos envies, sur nos ordres, sur ce qu'on veut obtenir d'elles?
Le problème, c'est les mécanismes de régulation face à des machines si puissantes qui peuvent prévoir, surveiller.
Mais elles sont puissantes parce que nos algorithmes sont puissants et de plus en plus sophistiqués. Hein.
Absolument.
Donc l'homme est toujours à la tête de cette machination, si je puis dire.
Mais il ne faut pas non plus être trop optimiste. On ne peut pas débrancher la machine. Il y a une autonomie de tout ça. Il y a une certaine autonomie.
Ça vous fait peur ?
À moi, c'est pas que ça me fasse peur ou pas peur, c'est-à-dire, j'aurais du mal à dire j'ai peur, n'est-ce pas? C'est-à-dire, parce que plutôt, si je m'inquiète plutôt qu'avoir peur, je me dis comment je réagis, c'est un peu ma nature, moi. Mais donc, comment je réagis? Moi, je me dis, comment on va faire avec un monde de surveillance totale? Vous imaginez ce qui se passe en Chine? Mais en Chine où à travers la reconnaissance faciale, etc., chaque Chinois est évalué, il a une note, non, une bonne note, une mauvaise note. Et c'est-à-dire que cet quadrillage total de la vie. Moi, je vais vous raconter cet exemple, je l'ai vécu. J'ai passé plusieurs années en tôle en Argentine à l'époque de la dictature. Et heureusement, j'étais la plupart de ces années dans une tôle pourrie vieille. C'était un gruyère, on cachait tout, on faisait des trous dans les murs, voilà. Et quelques temps, j'étais dans une prison nouvelle, avec des caméras et je sais pas quoi. Je vous assure que là, c'était une souffrance totale. Parce que, tout à coup, le fait de qu'il n'y ait pas de plis, qu'il n'y ait pas de replis, qu'il n'y ait pas de clair-obscur, vous voyez, cette permanente surveillance, eh bien, c'était une horreur. Eh bien,
mais une fois de plus, ça dépend de ce qu'on fait des avancées technologiques. On peut s'en servir pour le meilleur et, effectivement, comme pour plein d'autres choses, on peut s'en servir aussi pour le pire.
Oui, mais comme c'est les humains qui font ça, on voit bien qu'est-ce qu'ils font les humains. C'est-à-dire, effectivement, les marteaux, on pouvait l'utiliser pour mettre un petit clou et mettre la photo de ma fille, mais on pouvait l'utiliser pour casser la tête de l'autre. En général, on l'utilise pour casser la tête des autres.
J'irai pas jusqu'à dire ça, Miguel Benassayag.
Non, mais on voit bien comme... Non, mais aussi... D'accord, disons d'accord, aussi. Alors donc, on ne peut pas dire, par exemple, mais si on utilisait bien les marteaux, mais si on utilisait bien les algorithmes. Non, il faut avoir un réalisme concret, terre à terre, de dire, puisque nous sommes des humains, il faut bien savoir qu'il faut ne pas se laisser coloniser par ça, parce que comme nous merdons, eh bien, on va faire merder les algorithmes.
Vous dites, dans notre monde soumis à la gouvernance digitale, le corps est un obstacle récalcitrant.
Ah oui, absolument, parce que, effectivement, c'est-à-dire la modélisation du corps humain, la modélisation des fonctions, etc., est quelque chose dans lequel les corps, toujours, sont un peu trop opaques. C'est pour ça que tous les délires transhumanistes, non, dont ces grands canailles de Laurent Alexandre, et comme ça, c'est l'horreur totale, n'est-ce pas, cet homme. Tout ce truc de transhumanisme dans lequel nous vivons, on va laisser derrière nos corps et on va vivre sur d'autres supports. C'est de cela qu'on parle. Ils parlent de ça et eux sont des délirants ou des canailles. Mais dans la recherche technoscientifique, tout vise à déréguler, vous voyez. Alors, moi je suis le mec qui cherche à étudier les régulations, les mécanismes de régulation. Pourquoi? Parce qu'il me semble qu'à penser seulement dans le sens d'expansion de la puissance, on oublie les mécanismes antagoniques nécessaires.
On est en post-démocratie alors, Miguel Benassayag?
Alors là, si nous continuons à obéir aux diktats des grandes machines big data qui déterminent sans aucune décision humaine les grandes orientations, Bah, là, il y a quelque chose qui est un attentat à la démocratie. Je me suis battu pour la démocratie contre les militaires, et là, on savait comment faire. N'est-ce pas? C'était très dur, on savait plus ou moins comment faire. On a plus ou moins gagné, on voit bien qu'on ne gagne jamais tout à fait. Contre la délégation des fonctions démocratiques, économiques vers la machine, là, je ne sais pas comment résister.
La tyrannie des algorithmes et l'interview de Miguel Benassayac sont désormais disponibles dans notre machine. On peut les réécouter quand on veut. Merci beaucoup d'être passé.
Merci à vous.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
C'est dans la série Conversation pour demain que paraît chez Textuel La tyrannie des algorithmes, cette discussion de Miguel Benassayag avec Régis Mérand. À demain!